Bonsoir. Le PNUD et l'Agence britannique de financement international ont renvoyé au gouvernement congolais son document de stratégie de la réduction de la pauvreté. Ce document devait être soumis au conseil d'administration du Fonds monétaire international à Washington pour validation. Ces deux partenaires internationaux présents en République démocratique du Congo estiment que le document élaboré par le gouvernement congolais comporte encore des insuffisances. La validation du document de stratégie de réduction de la pauvreté est une des conditions posées par les instances financières internationales pour réduire la dette de la République démocratique du Congo. Le document de stratégie de réduction de la pauvreté est la base de l'accord qui unit le gouvernement congolais au FMI et à la Banque mondiale internationale. Ce programme vise à faciliter la réduction de la pauvreté en maintenant la croissance économique du gouvernement. En mai 2002, la validation de BSRT intérimaire avait ouvert la voie pour la RDC à la coopération structurelle avec les institutions de Bretton Woods. La validation des DSRP finales, qui devrait intervenir à la fin de ce mois de mars, allait faciliter la réduction pour l'année prochaine de plus de 90% de la dette publique extérieure de la RDC. Quelles conséquences le renvoi des DSRP du gouvernement peut-il avoir sur le processus de réduction de la dette de la RDC ? Jérôme Sekana, journaliste spécialiste en économie, Lem Kamonia, chargé de projet au Copyright, sont nos invités pour ce soir.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
Révision du document de stratégie de lutte contre la pauvreté. Quelles sont les raisons de cette révision, de la révision de ce document, Claude Kinder?
Le PNUD et l'Agence britannique de financement international, dit FID, reproche au document présenté par le gouvernement congolais d'être insuffisant, incohérent et désarticulé du point de vue de la programmation budgétaire. Ainsi, le document élaboré pendant 3 ans par le ministère du Plan n'est pas encore prêt, selon les partenaires internationaux présents en RDC. Donc, il ne sera pas envoyé au conseil d'administration du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le document des stratégies de réduction de la pauvreté finale devrait établir de façon exhaustive les programmes sociaux du pays et exposer clairement les besoins de financement extérieur et la politique économique du pays pour les prochaines années. Ceci dans le but de réduire la pauvreté. Selon le PNUD et l'agence britannique DFID, le document présenté par le gouvernement congolais n'est pas encore à même de sous-tendre sa politique économique durant les prochaines années. Pour eux, il faut que les DCRP deviennent un vrai outil de programmation budgétaire du gouvernement congolais. Ils demandent donc un dialogue avec le gouvernement congolais pour améliorer ce document avant de l'envoyer au conseil d'administration du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. Pourtant, le dépôt du DCRP à la fin du mois de mars était un critère structurel fixé par le Fonds monétaire international. La condition de réussite dans ce cas dépend de la capacité de la RDC à respecter la date fixée pour ce dépôt.
Voilà, c'est là le point d'explication de notre frère Claude Kinder, Jérôme Sekana. Vous avez suivi en tout cas le processus d'élaboration de ces documents très importants, le DSRP. Aujourd'hui, le PNUD et le DFID, l'agence britannique, renvoient ces documents. Votre réaction?
Oui, je dois d'abord commencer par corriger une chose. En tant que journaliste, nous devons avoir non seulement la probité intellectuelle, mais nous devons nous abréger à la bonne source avant d'écrire quoi que ce soit. Parce qu'en lisant les deux articles parus aujourd'hui dans le journal Le Palmarès ainsi que Forum des As, j'ai compris que c'est une même source qui a distribué les documents avec une forte dose d'exploitation politique. Alors, ce qui est vrai est que les documents des stratégies pour la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo, je peux considérer ça comme la Bible de tout ce que nous avons comme projet de développement en RDC en vue de résoudre ou de réduire la pauvreté en République démocratique du Congo. Et quand on dit qu'on a renvoyé, le mot est très mal choisi. Parce que là, nous sommes au troisième draft. Le premier draft était envoyé aux partenaires au développement. Ils avaient émis des critiques, ils avaient donné des amendements, parce que c'est un document qui appartient à la République démocratique du Congo, non seulement au gouvernement. Les gens doivent comprendre ici que le DCRP, c'est une affaire de tout le monde. On a posé la question à toute la population, toutes les couches de population de la République démocratique du Congo. Donc, dire qu'on a renvoyé, c'est trop fort. On n'a pas renvoyé, on a demandé à ce que le gouvernement puisse enrichir.
Oui, effectivement, Jérôme, s'il faut aller au-delà de l'usage de termes, le gouvernement avait élaboré ces documents qui devaient être envoyés au Conseil d'administration du Fonds monétaire international.
Et de la Banque mondiale. Et de la Banque mondiale. Les deux institutions sont les destinataires.
Effectivement, de ces documents. Mais entre les deux, il y a le PNUD et DFID qui sont présents en RDC, qui ont aussi étudié ce document, qui trouvent qu'il y a des insuffisances et demandent au gouvernement de compléter.
Je vous dis tout de suite, s'il y a des insuffisances, elles ne sont pas importantes. Pour la simple raison. Parce que dans toutes les étapes de la rédaction du DCRP, que ce soit le PNUD, que ce soit la Banque mondiale, tous les bailleurs de fonds sont impliqués. Et lorsque on siège, on transmet le premier draft, le deuxième draft, même le troisième draft, et on envoie le premier draft, les responsables du PNUD, de la Banque mondiale et tous les partenaires de développement apportent des amendements. Deuxième draft, même chose.
Effectivement, si vous acceptez, Jérôme, oui. Si vous acceptez jusqu'à l'instant actuel qu'il y a quand même des insuffisances, légères soient-elles, vous acceptez aussi que le gouvernement doit pallier ces insuffisances.
Oui, bien sûr.
Effectivement, si, là, alors maintenant, c'est là où se pose ma question. Quelle est votre réaction quand, pour des raisons insuffisantes ou suffisantes soient-elles, on renvoie ces documents au gouvernement?
Oui.
Au lieu que ça soit donné au destinataire.
Bien sûr, je suis en train de regretter une chose. C'est que à la fin de ce mois de mars, peut-être, on devrait approuver les DCRP au gouvernement, parce que le DCRP, pour que nous puissions bénéficier de la réduction de notre dette extérieure à raison des 90%, il faut nécessairement qu'on applique, qu'on exécute, qu'on mette en observation les DCRP pendant une année. Donc, c'est pour vous dire que il y a des retouches à faire pour l'enrichir, et que je ne dis pas ici que le gouvernement a fait un travail parfait, non. Il y a les remarques formulées par les partenaires au développement, ce sont les mêmes remarques que les partenaires au développement ont formulées lorsqu'ils ont reçu le premier draft, le deuxième draft et même le troisième draft. Et pour terminer, je dois vous avouer qu'avant d'entrer en ce studio, j'ai eu des échanges avec les amis du PNUD, les amis de la Banque mondiale. Ils sont surpris de lire ces articles tels qu'ils ont été rédigés.
Effectivement. Retrouvons maintenant Lems Kamonia. Vous êtes expert aussi, mais vous travaillez à COPIREP, qui est le comité de pilotage des entreprises publiques. En tant qu'expert, quel regard vous avez aussi par rapport à ce renvoi de documents au gouvernement congolais?
Oui, j'ai essayé d'examiner les raisons qui ont été avancées pour ne pas accepter ces documents. Peut-être pour nuancer un peu les choses par rapport à l'intervention de Jérôme tout à l'heure, ce qui est important, s'il y a eu un premier draft, il y a eu un deuxième draft, mais là on était au document final, qui en principe devrait être approuvé en tant que condition nécessaire pour que notre pays puisse accéder au point d'achèvement, de façon qu'il puisse les mettre en œuvre et bénéficier dans une année de ces programmes de réduction dans le cadre des initiatives TPTE. Donc c'était quelque chose qui était attendu par l'ensemble des membres du gouvernement. Donc on ne pouvait plus parler en termes de draft. Donc c'est-à-dire nous sommes arrivés au bout de nos efforts et on attendait que ce qui a été fait soit approuvé pour voir notre pays bénéficier de ce programme de remise des dettes qui a été promis par les différents partenaires techniques et financiers, principalement le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Alors, quand il y a eu ce renvoi, bien entendu, c'est un coup très dur à l'endroit du gouvernement. Et j'ai essayé d'examiner les raisons. Peut-être c'est au niveau des raisons où nous pouvons voir si ces raisons sont réellement fondées ou s'il y a effectivement des insuffisances qu'il faudrait très vite corriger. Et c'est peut-être dans...
Effectivement, sur ces raisons, on dit qu'il y a des insuffisances, c'est pas articulé, c'est pas bien articulé du point de vue justement de planification budgétaire.
Oui, moi peut-être pour permettre aussi à nos auditeurs de nous suivre, parce que parfois quand on dit DCRP, l'ensemble de nos auditeurs ne comprennent pas, il s'agit de quoi précisément? D'abord, ce qu'il faut reconnaître quand on dit DCRP, c'est un document qui expose les caractéristiques et les déterminants de la pauvreté dans notre pays avec les différentes parcellités régionales. Et il définit donc la vision de développement de notre pays à long terme, tout en retenant les grands piliers stratégiques que nous considérons comme qui doivent promouvoir une croissance économique très forte, durable, équitable et qui doit au terme contribuer à une certaine réduction de la pauvreté. Donc au fait, c'est ça le DSLP. C'est-à-dire, c'est notre document de base, comme il a dit, une Bible qui nous permet de voir comment nous pouvons doter à notre économie une croissance, à notre nation un développement qui à terme doit contribuer à une réduction de la pauvreté et à la diminution des inégalités. Donc vous faites une planification de votre développement, vous faites une planification de votre croissance pour qu'elle puisse contribuer à réduire de manière significative les niveaux de pauvreté au niveau de l'ensemble de la population. Maintenant, ils examinent comment vous définissez les grands secteurs, les grands piliers comme étant des piliers de croissance et comment vous comptez les financer. C'est ce qui est très important. Quand on dit qu'il y a des incohérences, des insuffisances, ils voient comment vous êtes en train d'entrevoir votre développement économique à long terme et comment vous allez le financer. S'ils voient que vous voulez, par exemple, mettre beaucoup d'accent sur des secteurs peut-être qui peuvent contribuer à la croissance économique, mais ne changent en rien le standing de vie de la population, ils vous diront que là, il y a un problème. Tout comme vous pouvez avoir des ambitions qui sont démesurées alors que vous n'avez pas de véritables moyens financiers. Tout comme vous pouvez avoir un problème de priorité. Qu'est-ce qu'on a comme priorité aujourd'hui pour le développement? Est-ce qu'il faut promouvoir les secteurs privés? Est-ce qu'il faut réformer l'État? Est-ce qu'il faut améliorer la bonne gouvernance? Ils regardent toutes ces conditions, comment vous les présentez, pour que même celui qui va lire, il se dit, cette politique ici, si on la met en œuvre par rapport aux moyens, effectivement, on va arriver à une croissance qui aura des effets d'entraînement sur l'ensemble de la population et peut contribuer à la réduction de la pauvreté.
Et donc, ces critères de développement, on peut imaginer que le gouvernement soit n'a pas bien fixé ses priorités, soit n'a pas tenu compte de certains critères clés de développement.
Moi, peut-être, je préfère passer aux chiffres. Parce que parfois, quand nous parlons avec des chiffres, on peut comprendre. J'avais examiné un document qui avait été présenté, un DSRP qui avait été présenté en son temps, un document, où on avait prévu pour les trois années, 2006, 2007 et 2008, pour arriver à l'objectif qui était visé, il fallait financer les DSRP à hauteur de 4,7 milliards de dollars. Dans ces montants, près de 4 milliards 96 millions de dollars devraient provenir du financement extérieur. Et seulement 700 millions devraient provenir du gouvernement, des efforts internes. C'est comme si vous élaborez un document qui grandement va dépendre d'un financement extérieur. Comme ce sont les mêmes bailleurs de fonds qui doivent financer, sont-ils prêts à cautionner ces documents-là? C'est comme s'ils acceptent de s'engager déjà pour des chiffres trop importants pour un horizon de 3 ans.
Et donc c'est...
Ça peut être un premier problème. Ouais. Deuxièmement, même s'ils regardent la part que vous vous réservez, parce qu'il faut les mettre en œuvre, comme il a dit, il faut mettre ça en œuvre. Si je prends pour l'année 2006, il a été dit que les gouvernements, par exemple, devraient contribuer à hauteur de près de 160 millions de dollars. Là, nous sommes déjà à la fin du mois de mars. Quels sont les efforts qui ont été faits? Et quand vous examinez les sources de financement, on dit qu'il faut 4,7 milliards pour financer les DSRP. D'où proviendra cet argent? On dit qu'il faut une mobilisation des ressources internes. Il faut bien gérer et même restructurer un peu les dépenses publiques. Il faut bénéficier des ressources qui vont provenir de l'annulation. Et il faut chercher d'autres financements extérieurs à venir. Maintenant, quand ils voient comment vous répartissez cela, ils peuvent se dire quelque part, vous voulez avoir un problème pour financer ces documents-là. Et ça peut être une des causes de ces rejets.
Effectivement, ce sont là les différentes causes qui peuvent justifier ça. Mais écoutons maintenant la réaction de celui qui a piloté la rédaction de ce document de la réduction de la pauvreté des CRP, Alexis Ntambomamba, ancien ministre du Plan. On écoute sa réaction après que le PNUD et DFID a demandé que le gouvernement puisse revoir ce document en principe considéré comme final.
Bonsoir Monsieur Alexis Ntambomamba.
Bonsoir.
Vous avez supervisé au niveau du gouvernement congolais l'élaboration du document de stratégie de lutte contre la pauvreté. Quelle est votre réaction face au fait que le programme des Nations Unies pour le développement et le Department for International Development ont retourné au gouvernement congolais ce document afin d'être amélioré?
Écoutez, Avez-vous déjà eu à répondre à un courrier que vous n'avez jamais reçu? J'ai vu dans la presse que les bailleurs de fonds ont renvoyé le DCRP au gouvernement congolais. Comment est-il possible que les bailleurs de fonds aient renvoyé au gouvernement congolais un document qu'ils n'ont pas encore reçu? Je peux vous signaler une chose, le DCRP congolais tel qu'il a été fait est un DCRP de qualité. Il est supérieur à beaucoup de DCRP qui ont été pondus en Afrique, mais il se fait seulement maintenant que le programme économique du gouvernement ayant échoué, non pas par la faute du ministre du Plan, mais par la faute des autres, on ne souhaite pas que le DCRP arrive, parce que le DCRP est le seul document de référence qui a été élaboré, et on voudrait en fait, disons, se venger d'un individu, mais en punissant 58 millions de Congolais.
Monsieur...
Le DCRP n'a jamais été envoyé jusqu'à présent à la communauté des bailleurs de fonds.
Et pourtant, nous avons également contacté le représentant résident du Fonds monétaire international à Kinshasa. Il a dit que ce document n'avait pas été rejeté, mais il y avait un dialogue avec le gouvernement pour d'éventuelles améliorations.
Mais nous sommes justement à ce niveau-là. Le DCRP a suivi un processus. Et ce processus a impliqué à tous les niveaux les partenaires du Congo. Lorsque nous avons eu à produire le draft numéro 1, c'était pour demander aux partenaires du Congo de donner leurs avis et considérations.
Et quelle était leur réponse?
Mais ces différents avis ont été intégrés dans le document. Ici, dans les cas présents, on n'a même pas voulu que le vice-ministre au plan, qui est parmi les hommes les plus brillants du gouvernement, puisse présenter le DCRP, parce qu'on s'est arrangé en fait pour avoir un document avec des avis techniques qui devaient être pris en compte pour être intégrés dans le document final pour dire que les bailleurs de fonds ont refusé. C'est totalement faux, c'est mensonger. Ce sont des gens qui veulent prendre le DCRP en otage, qui veulent punir 58 millions de Congolais parce qu'ils ont un compte à régler avec Tambwe. Le DCRP que nous avons produit est un des meilleurs en Afrique. J'ai tout le courrier de la plupart des bailleurs de fonds qui ont dit, tiens, nous avons reçu le draft numéro 1, voici nos avis et observations. Nous avons reçu le draft numéro 2, voici nos avis et observations. Nous avons reçu le draft numéro 3, voici nos avis et observations. C'est sur les avis et observations du draft numéro 3, de la part de deux partenaires, que des gens, en fait, disons, ont sauté sur l'occasion. Le processus de DCRP a impliqué, depuis le début, tous les partenaires de la République. Comment voulez-vous qu'on rejette un document qui n'est pas encore arrivé? Il n'y a que Washington qui a le pouvoir de rejeter le document.
Voilà, c'est là la réaction, la réponse de l'ex-ministre de Plan, Alexis Ntambomamba. En tout cas, vous l'avez entendu, pour lui, au fait, le gouvernement a échoué dans le programme économique et étant donné cela, on veut faire porter la charge de la charge de cet échec justement au document qui lui il a élaboré. D'abord, Jérôme Sekamé.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec le ministre sortant du Plan, Alexis Ntambomamba. Je pense que si vous suivez ce qui est mon analyse, ainsi que vous comparez mon analyse à celle qu'il vient de faire, vous allez trouver, si vous faites un recoupement, que nous disons presque la même chose. Mais là où je dois sincèrement être un peu en démarcation avec lui, c'est au niveau du programme économique du gouvernement. Effectivement, le programme économique du gouvernement a des difficultés, a du plomb dans l'aile. Mais le gouvernement n'a pas encore tellement échoué, parce qu'il y a de critères structurels qu'il faut remplir. Il y en a deux pour le moment qui posent encore des petits problèmes, mais nous osons croire que nous venons d'être très loin, on pourra les résoudre. Et il est possible, je ne confirme rien, il est possible que le DCRP, tout comme le programme économique du gouvernement, nous trouvons dans une période préélectorale, les gens peuvent tirer des ficelles à gauche, à droite, mais nous devons rester des technocrates. Le DCRP est vital pour la République démocratique.
Oui, effectivement, mais si c'est vital pour la République démocratique du Congo, Jérôme, est-ce que vous considérez que le DCRP en soi ne contient aucune insuffisance et que tout, non, et le renvoi de ces documents au gouvernement, et en fait l'insatisfaction des bailleurs qui sont ici à Kinshasa de programmes économiques, le programme économique tenu par l'ensemble du gouvernement.
Je vous ai dit tout à l'heure, en entrant en ce studio, j'ai eu un contact avec les amis du PNUD. J'ai parlé avec les amis de la Banque mondiale. Je leur ai posé la question. Comment vous réagissez face à ça? Parce que eux ne veulent pas s'exprimer. Je vous informe que demain, il y a une réunion au ministère du Plan. Ils sont surpris. Ils sont surpris qu'on puisse rendre l'information telle qu'elle est parue dans les journaux aujourd'hui. Il y a des problèmes. Quand le ministre, l'ancien ministre du Plan parle de trois drafts, c'est-à-dire, lorsqu'on a envoyé aux partenaires au développement les troisièmes drafts, on attendait effectivement des partenaires au développement leurs amendements. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec mon confrère qui dit que c'était les DCRP final. Il est possible que toutes les recommandations des bailleurs de fonds ne soient pas respectées. Et il n'est pas, ce n'est pas parce que les bailleurs de fonds ont demandé qu'on corrige qu'on mette un à la place de deux, que nous devons dire que ce DCRP-là, il est irrécevable, insuffisant, incohérent et désarticulé.
Mais effectivement, ce sont des termes
de la programmation budgétaire.
Mais c'est là où on est non, effectivement, ce sont des termes utilisés par
C'est là où moi je ne suis pas tout à fait d'accord, d'autant plus que les représentants, le PNUD à Kinshasa travaillent avec le DCRP depuis le début jusqu'à maintenant. Vous comprenez? Donc, c'est un document irrécevable.
On dit désarticulé du point de vue de la planification budgétaire.
Oui, du point de vue de la planification budgétaire, mais il y a des séances marathon, des réunions qui s'organisent pour discuter. Ce ne sont pas des choses qu'on décide soi-même dans son bureau, non. Et je dois vous dire que les DCRP, c'est une propriété de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Et les bailleurs de fonds, même Washington.
Mais c'est une condition,
Oui, d'accord. C'est une condition. Mais les DCRP n'est pas une propriété des institutions de Bretton Woods. Les institutions de Bretton Woods ne peuvent pas imposer, comprenez très bien, ne peuvent pas imposer les DCRP à temps. Parce que les DCRP s'inscrivent dans le cadre des objectifs du millénaire. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous devons réduire de moitié la pauvreté à travers le monde
en 2015. Mais on sait que le DCRP, c'est la base qui soutient l'accord
entre les institutions, mais c'est nous qui disons aux bailleurs de fonds, voilà, on a interrogé toute la population, nous avons besoin ici d'un pont, ici nous avons besoin d'un centre de santé, là-bas nous avons besoin par exemple d'une école et vice-versa. Et maintenant les bailleurs de fonds voient ce que nous pouvons faire. Comment nous pouvons nous mobiliser pour financer ça? Et ce qui manque, les bailleurs de fonds peuvent venir viennent en appoint à ce que nous pouvons disponibiliser.
Mais effectivement, le problème de bailleurs de fonds, en tout cas ceux qui sont présents ici en République démocratique du Congo, c'est vrai de donner les besoins, c'est vrai de demander de l'aide extérieure, mais que cela doit être dans l'équilibre de macroéconomique qui se repose sur le budget. Et donc on voit que les documents un problème d'équilibre,
oui.
c'est ça,
j'ai le problème d'articulation. Je suis tout à fait d'accord. Articulation, peut-être on peut surévaluer ou sous-évaluer le budget des financements. Je suis tout à fait d'accord, ça peut arriver. Mais moi, je m'interdis de dire que à cause de retouches qu'on doit faire, ce DCRP est irrécevable. Là, j'ai dit c'est faux et archi-faux.
On va retrouver maintenant rapidement notre collègue dans cette deuxième explication, Georges Kamoujova. Georges Kamoujova ici nous donne des conséquences que peuvent avoir ce renvoi de documents de la stratégie de réduction de la pauvreté au gouvernement. Quelles conséquences cela peut avoir dans le processus de réduction de la dette de la RDC? Retrouvons pour ça Georges Kamoujova.
Un retard dans la finalisation du document stratégique pour la réduction de la pauvreté ramène au loin la réduction de la dette extérieure congolaise. La rédaction de ce document est un des trois préalables pour l'annulation de la dette extérieure. Tant que cette étape ne sera pas franchie, plus de 10 milliards de dollars pèseront encore sur la RDC à titre des dettes dues aux institutions internationales et aux autres bailleurs. L'annulation de cette dette extérieure permet de passer à une autre étape, celle d'obtenir des financements des bailleurs de fonds. Ces financements aideront le gouvernement congolais à initier d'autres actions de développement et d'augmenter peu à peu son économie. Ce sont ces actions à leur tour qui pourront transformer la vie des pauvres. Ces financements exigeront aussi la transparence dans les finances publiques. Le gouvernement qui reçoit des dons ou des prêts étrangers est obligé d'être clair et confiant vis-à-vis de ses bailleurs, ce qui canalise l'argent reçu à des fins utiles et profite encore aux populations.
Lems Kamania, vous croyez que ce renvoi va influencer le processus dans le sens que ça va retarder ce point d'achèvement que nous attendons tous, la réduction de notre dette?
Tout à fait, c'est certain. Même si on l'appelle renvoi, même si nous disons qu'il y a des observations, c'est-à-dire quelque part on invite le gouvernement congolais à rentrer encore sur les pupitres pour affiner les documents qu'il doit présenter, et ça vous demande un temps pour arriver à prendre part ou à intégrer les différentes observations, et ce temps va se répercuter, ce retard-là va se répercuter sur la finalisation du programme et notre accessibilité donc au point d'achèvement qui conditionne la réduction de la dette. Parce que aujourd'hui, approuver ces documents, c'est une chose, il faut les mettre en œuvre pendant au moins une année avant de bénéficier de ce programme de remise de dette. Donc, si aujourd'hui, en fin mars, ce document n'est pas approuvé, et qu'il y a des observations, comme ils ont dit qu'ils doivent travailler avec les gouvernements, c'est-à-dire qu'il faudra encore en fait retravailler dans les documents, les soumettre prochainement, attendre encore qu'il y ait une autre sanction, peut-être qu'ils soient encore soumis au niveau du conseil d'administration du Fonds monétaire international de la Banque mondiale pour qu'ils donnent leur quitus, et à ce moment-là, qu'on passe maintenant à sa mise en œuvre et attendre une année après pour bénéficier du programme de remise. Donc, ces observations, ces renvois, effectivement, vont entraîner un retard.
Est-ce que vous avez l'idée de combien de temps le premier draft, combien de temps le gouvernement a pris pour corriger les erreurs du premier draft et présenter le deuxième draft?
Non, je dirais que pendant tout ce temps, il y avait un moment où il fallait soumettre ça. Il y avait une date critique. Et quand on avait tous les délais, c'est-à-dire on se disait, il faut les soumettre à telle date, ça devrait coïncider avec la fin du programme économique du gouvernement, où on devrait réunir tous les préalables. Bon, maintenant là, nous sommes presque arrivés au terme. C'est-à-dire, la priorité maintenant, c'est de notre côté en tant que gouvernement. Il faudrait qu'on puisse vraiment mettre la main à la pâte pour accélérer et intégrer différentes observations qui ont été formulées afin que le plus tôt possible, qu'on puisse disposer d'un document. Parce que si on ne le fait pas avec tout ce qu'il y a comme échéance, nous risquons de mettre en place de nouvelles institutions, un nouveau gouvernement et autres, sans avoir un document de référence pour votre développement. Nous risquons encore de piloter à vue notre développement économique, ce qui n'est pas bon. Je crois qu'il serait mieux que, avant la mise en place de nos institutions, que nous ayons déjà notre DCRP finalisé, accepté. Comme ça, nous avons notre document de base pour le développement du pays.
En rapport justement avec des conséquences que cela peut entraîner, on va retrouver maintenant le représentant résident du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo, Xavier Marais. Pour lui, le document de la stratégie de réduction de la pauvreté finale n'a pas encore été rejeté, mais des améliorations doivent être faites. Mais il estime qu'à l'état actuel des choses, le point d'achèvement n'est pas encore menacé. Le gouvernement a encore toute la chance d'améliorer.
Bonsoir, monsieur Xavier Marais.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes le représentant résident du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo. Où en est-on avec le document de stratégie de réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo à l'heure actuelle?
Eh bien, écoutez, le document de stratégie de réduction de la pauvreté, nous en avons reçu une version très récemment pour information et commentaires, ainsi que l'ensemble de la communauté des bailleurs de fonds. C'est un document très important pour le peuple congolais. Non seulement il développe une stratégie de réduction de la pauvreté qui a été élaborée de façon participative, mais c'est aussi un document qui sert de cadre d'intervention à l'ensemble des bailleurs de fonds et partenaires au développement, aussi bien pour financer la stratégie que dans le cadre dans l'allègement de la dette de l'initiative pour les pays pauvres très endettés.
Est-ce que vous avez reçu la version finale?
Oui, c'est la version qui nous a été communiquée pour information. Une partie, je dirais, a été revue et commentée. C'est dans le cadre des échanges fréquents et du dialogue permanent que nous avons avec, disons, les autorités de la République démocratique d'Oran. Le document donc nous a été transmis pour commentaire, ce que nous avons fait. Nous espérons donc bientôt avoir une nouvelle version qui permettra de prendre en compte certains des commentaires.
Parce que la presse en a beaucoup parlé aujourd'hui. Le document final du DCRP qui vous a été présenté, est-ce qu'on peut dire que ce document a été rejeté par le conseil d'administration du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale?
Non, certainement pas. Non. Il n'a même pas été soumis au conseil d'administration ni du Fonds monétaire ni de la Banque mondiale. Non, le document, à l'heure actuelle, est en phase de finalisation au niveau de la République démocratique du Congo. Et comme les partenaires au développement locaux font partie du processus, je dirais, de consultation pour la finalisation de ce document, c'est dans ce cadre-là que le document nous a été communiqué.
Et quand est-ce
commentaires et informations.
Monsieur Xavier Marais, je vous remercie et bonne soirée.
Merci. Au revoir.
Voilà, c'est Xavier Marais. Il estime que le gouvernement doit encore faire retoucher après que eux ils ont donné leurs remarques, leurs commentaires. Jérôme Sekana, le gouvernement va prendre combien de temps selon vous? Et d'après tout le temps qu'on a eu à passer d'un draft à un autre, combien de temps on aura pour retoucher justement? Quelle idée vous avez?
Je vous dis tout de suite que ce qui a beaucoup fait traîner le DCRP, c'est l'enquête 1, 2, 3. Et comme on a franchi cette étape, sans toutefois exagérer, un mois peut suffire pour permettre d'intégrer toutes les remarques dans les DCRP. Mais je voudrais dire quelque chose de très important. Vous savez, il faut quand même qu'on soit reconnaissant. Le gouvernement a fourni un grand effort. Je ne jette pas de fleurs, vous me connaissez. Je jette parfois des fleurs, parfois je tire à boulet rouge sur le gouvernement. Mais au moins là, il faut reconnaître que quand vous regardez le stock de la dette extérieure de la République démocratique du Congo, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 9,3 milliards de dollars. Nous venons des 14 milliards. Alors, les dangers, parce que vous parliez des conséquences, les dangers c'est quoi? Si une fois nous n'atteignons pas le point d'achèvement de l'initiative PPTE, c'est-à-dire, et pour atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, nous devons mettre, observer le DCRP pendant plus ou moins une année pour que les conseils d'administration de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international donnent se prononcent. Donc, il faudra nécessairement que nous puissions réussir. Parce que si nous ne le faisons pas, nous retomberons à la case de départ. Et la case de départ, c'est quoi? Nous serons obligés de rembourser les 14 milliards que nous avions contracté auprès des bailleurs à l'extérieur. Mais il y a un travail qui s'est fait. Le travail s'est fait, par exemple, en ce qui concerne le fonds PPTE lui-même. Vous voyez, quand vous allez sur le plateau des Batéké, vous voyez, on est en train de construire des maisons. Les gens se demandent qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. Il y a 500 maisons habitation qu'on doit construire là-bas avec l'argent du fonds PPTE. Il y a au niveau de l'enseignement supérieur, le bus qu'on a donné, tout ce que vous voyez ici comme corbillard, la liste est longue. Le problème que nous avons avec notre gouvernement, c'est le problème de la bonne gouvernance. Le gouvernement doit maintenir le cap parce qu'on n'observe pas la bonne gouvernance. Il faut éviter des dérapages, comme les dérapages que nous avions connus lorsque Nkunda Batware est intervenu à l'est du pays et on a vu le gouvernement faire tourner la planche à billets avec des dépenses qui sont allées au-delà, plus de 43 milliards de francs congolais. Et il faut éviter des choses comme ça. Nous devons maintenir les caps si nous voulons réellement arriver au point d'achèvement de l'initiative PPTE en ayant d'un côté le programme économique du gouvernement qui doit aboutir. Et tout le monde doit s'impliquer, ça ne doit pas être l'affaire de l'Ecofin ou du ministre des Finances seulement, nous avions parlé de cela il y a la fois passée, et que tout le monde s'implique pour que le DCRP final soit corrigé, s'il faut corriger, soit enrichi, et qu'on dépose parce que c'est une condition sine qua non.
Document de stratégie de réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. Les bailleurs de fonds ont renvoyé au gouvernement pour des dernières améliorations. Retrouvons maintenant les auditeurs dans cette dernière partie de l'émission. Jean-Claude Colouési, qu'arrivera-t-il s'il y a un deuxième renvoi du document, Lens Camonia?
Ah oui, ce qu'il faut craindre, c'est que c'est d'abord un CCRK, parce que si le document est renvoyé, la crainte, c'est ce que Jérôme vient d'évoquer ici, nous risquons de voir notre pays ne pas atteindre les points d'achèvement à temps. avec toutes les conséquences qui s'en suivent. C'est ça la crainte. Heureusement que nous venons d'avoir la précision de la part du représentant résident du Fonds monétaire qui dit que jusque-là, ces documents n'ont pas encore été soumis au niveau du conseil d'administration parce que c'est le conseil d'administration qui est l'organe habilité à sanctionner définitivement ces documents.
Mais là encore, c'est une autre étape. Parce que ici, ceux qui sont présents ici, déjà, on dit, vérifier encore.
C'est un tremplin.
Et après, c'est une autre étape au conseil d'administration de revérifier, de voir si c'est conforme ou pas.
Oui, parce que s'il y a un deuxième renvoi, c'est-à-dire on allonge les délais pour les finaliser. Et ce n'est pas bon qu'on prenne trop de temps pour les finaliser. Et à ce moment-là, ce retard-là, il nous sera imputable avec toutes les conséquences qui s'imposent.
Mais à l'état actuel des choses, on peut dire que la transition va léguer aux nouvelles institutions sa dette d'une façon ou d'une autre.
Ah oui, ça, parce que même si, on l'a dit ici, même si aujourd'hui ces DSRP étaient acceptés, il faut encore les mettre en œuvre pendant une année. Donc les bénéfices de cette réduction de la dette, on ne peut les constater que une année après la mise en œuvre du DSRP.
Pourquoi le gouvernement tarde-t-il à associer ceux qui peuvent aider à compléter ce document? Est-ce que vous pensez que c'est au fait une volonté du gouvernement de gérer seul ce problème ou il y a une approche participative?
Sans me faire l'avocat du diable, le DSRP actuel a observé une approche participative. Tout le monde, je vous assure, les envoyés spéciaux, même, je dirais, les délégués du DSRP, ont sillonné les pays. Il y en a deux d'entre eux qui sont morts même dans la province orientale. Je vous dis, la population s'est exprimée dans ces DSRP.
Ouseni de Bukavu, suivez vous, peut-on réduire la pauvreté sans avoir une bonne politique salariale dans le pays? Et là, je vous pose cette question, Lem, si vous avez eu le temps peut-être aussi de voir ce document. Est-ce qu'on tient compte d'une nouvelle approche dans ce qui concerne la politique salariale?
Oui, je crois que la protection sociale, c'est un des piliers importants de ces DSRP. Mais seulement ce qu'il faut, il faut reconnaître, parce que les gens pensent qu'il n'y a que les gouvernements, les secteurs publics, qui est en mesure d'améliorer, qui est obligé d'améliorer les salaires, mais les salaires, c'est d'abord le fait. Moi, je pense indirectement, si on fait une promotion du secteur privé, s'il y a beaucoup d'entreprises privées reconnues dans leur capacité de création d'emplois, reconnues par leur dynamisme et leur niveau élevé de rémunération, je crois qu'à ce moment-là, ça va créer une synergie qui va arriver jusqu'au niveau du secteur public. On ne doit pas fonder tous les espoirs dans le secteur public, mais il faudrait voir la promotion du secteur privé.
Mais quand même, il y a un seuil que l'État doit fixer, le seuil de salaire minimum.
Mais oui. Tout ça dépend de son budget. Vous avez un budget de la honte de 2 milliards de dollars, dont plus de la moitié, 54% provient de l'extérieur. C'est utopique de penser qu'on peut payer en
réalité. Mais non, mais quand on parle de politique salariale,
la politique salariale est tributaire du budget.
Effectivement, mais
ce qui concerne les fonctionnaires. Parce que le problème, c'est quoi? Je dois vous avouer, même chez vous ici à la Monique, parce qu'il faut qu'on
s'éloigne. Jérôme, s'il vous plaît, je pose ma question, parce que la question de notre auditeur, c'était sur la politique salariale.
Mais bien sûr,
on dit que dans des pays, dans plusieurs pays, ça s'est fait, la République démocratique a accepté le principe d'un salaire minimum interprofessionnel. Attendez, Jérôme, est-ce que le gouvernement ne peut ni serait-ce que pas accepter de mettre ça de règle, de façon que un minimum nécessaire soit...
Le problème, c'est pourquoi je vous dis que les SMIG dans tous les pays du monde a comme référence ce que l'État donne à ses fonctionnaires. Vous comprenez? Et dans un pays comme le nôtre, où nous avons un budget de la honte, comme je vous le disais, il est impossible que le gouvernement, par exemple, accepte de mettre un SMIG ou un huissier, par exemple, peut avoir 250 $, pendant que lui ne sera dans l'impossibilité de trouver l'argent pour payer. Et c'est ce qui fait que, même lorsque les institutions internationales arrivent, ou d'autres compagnies, avant d'attribuer le salaire, ils discutent avec la fonction publique et les autres pour qu'on fixe le prix. Parce que, pour éviter des tensions sociales, les gouvernements vont lui dire, écoutez, moi, chez moi, je n'ai pas beaucoup de moyens, ce que je peux payer, je paye à mes gens, c'est ça. Si toi, tu multiplies par 100 ton salaire, tu vas créer une tension sociale. Et alors, la solution dans cette politique salariale, c'est de faire en sorte que tout le monde paye l'impôt et taxe, qu'on essaye de ramener dans les formels tout ce qui opère dans l'informel, que le budget soit conséquent, et en ce moment-là, on va équilibrer les choses.
L'EMS Comonia, par rapport à la politique salariale.
En principe, l'État peut mettre en place une politique salariale, parce que la politique salariale peut définir des tranches d'évolution de salaire. Bien entendu, il faut fixer un SMIC, même si l'État, même si le budget, il est ce qu'il est, mais il y a quand même un minimum qui doit être garanti à la population. Et c'est au niveau, par exemple, de la catégorisation des dépenses et de la priorité qu'on doit se dire, mettons quand même...
Est-ce que cette politique-là existe pour ce qui est notre pays? Est-ce qu'au moins, est-ce qu'on connaît le SMIC?
C'est vrai que je sais qu'il y avait, en son temps, le ministre, c'est Mme Loukiana, qui avait proposé un SMIC qui n'avait jamais été appliqué.
Et donc voilà. Il y a le pays qui est confronté devant un vrai problème de politique salariale.
Tout à fait.
Clément Kankou, de Kinshasa Gombe. Pourquoi notre pays, qui est immensement riche, lutte-t-il pour entrer dans le club des pays pauvres très endettés? Paradoxe. Lens Kamania, vous aviez la parole.
Oui, bon, moi je crois que c'est un paradoxe, effectivement, parce que c'est quand même bizarre de voir un pays qui, pendant 5 ans ou 6 ans, vous mettez à suivre un programme pour que vous soyez considéré comme un pays pauvre très endetté. C'est même... ça humilie vraiment notre pays, mais c'est peut-être parce qu'on a mal géré le passé, vous vous retrouvez avec un fardeau de la dette et vous n'avez pas de choix. Vous êtes considéré comme un débiteur délinquant à un moment donné. Vous devez accepter tout ce qu'on vous impose.
Une dernière question et je demande une réponse très rapide. Jérôme, si vous pouvez nous fournir ça, c'est la question de Henri de Kisangani dans la province orientale. Pouvez-vous nous expliquer, alors faites-le vraiment de façon brève, qu'est-ce que le point d'achèvement et qu'est-ce que le DCRP?
Voilà, le point d'achèvement, c'est le terminus, donc le point d'arrivée de ce qu'on appelle l'initiative PPTE, qui a à l'entrée ce qu'on appelle le point de décision, et le point d'achèvement, c'est le point d'arrivée. C'est-à-dire, lorsque vous avez réglé toutes vos dettes auprès des institutions de Bretton Woods, parce que l'initiative PPTE est une initiative de deux institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Lorsque vous remplissez un certain nombre de critères, vous accédez, vous franchissez ce qu'on appelle le point de décision. C'est le cas avec la République du Congo voisin ici qui vient de franchir.
Effectivement, donc,
vous allez au point d'achèvement. C'est-à-dire, quand vous arrivez au point d'achèvement, on vous dit que maintenant, vous avez fait preuve d'une bonne gestion, de la bonne gouvernance.
On réduit
votre dette de 90%. On efface ça.
Exactement. Mais pour ce qui est des DCRP, rapidement.
Les DCRP, c'est le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. C'est au fait la Bible qui rassemble à son sein tous les programmes. Là-dedans, vous avez les PEG, vous avez le mur, vous avez tout ce que vous connaissez comme programme, même les autres programmes qui ne sont pas encore connus, que la population elle-même est en train de monter pour son développement, pour combattre la pauvreté.
On va retrouver à 19h58 rapidement Tété Bassoubi pour les opinions des auditeurs. Bonsoir Tété.
Bonsoir Franklin. Nous commençons par Richard Alissala. Au lieu de réduire la pauvreté, cessez de provoquer des guerres pour voler les richesses de la RDC. Ndala Kasongo à Kolwezi. Bravo à la Banque mondiale. Elle fait tout pour sauver la RDC de la pauvreté, mais malheureusement, c'est une situation inacceptable. Jay, à Bounia, il est mieux de rejeter ce planning du gouvernement que de financer ceux qui ne feront rien pour le pauvre Congolais. Pasteur Biteko, à Goma, que les personnes qui ont endetté la RDC soient identifiées et poursuivies par la justice. Sylvestre, à Beni, nous sommes pauvres au Congo suite au cumul des intérêts sous le règne des soi-disant homme au pouvoir. Bébi, à Bukavu, nous n'arriverons jamais à mettre fin à la pauvreté par manque de bons dirigeants.
Merci beaucoup, Tété Bassoubi. 30 secondes à vous, Lens Kamania, pour conclure cette émission. Votre impression par rapport aux opinions?
Oui, je crois qu'aujourd'hui, nous payons notre mauvaise gestion antérieure.
Jérôme Sekane.
Cessons de nous jeter la pierre. Le ministre Tambo Mbamba n'a pas démérité. Avec son équipe, ils ont fait un bon travail, même s'il y a des retouches à faire.
C'est la fin de ce dialogue entre Congolais qui a tourné autour de documents de stratégie de réduction de la pauvreté. Nous avons reçu l'EMS Kamonia de Copirep, comité de pilotage des entreprises, de réforme des entreprises publiques, et Jérôme Sekana, journaliste spécialiste en économie. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions et vos SMS. L'émission est disponible sur www.radiocapi.net. Elle est rediffusée demain matin à 4h45 à Kinshasa. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.